Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer bien sûr sur les sujets qui vous préoccupent de santé ou de bien-être ou d'autres choses d'ailleurs.
Ce que vous voulez.
Voilà, ce que vous voulez. Il est là pour vous, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre cerveau et à son fonctionnement. Nous allons tenter de décrypter par quel miracle des réactions électriques, par exemple, à l'intérieur de celui-ci, peuvent bien aboutir à des émotions ou même des actions de notre quotidien. Pour nous éclairer, nous décrypter hyper simplement, je vous le promets, les neurosciences, notre invitée, ce sera Sylvie Chocron. Elle est neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un point cet après-midi sur le Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, avec la cardiologue Claire Mounier-Veillé, qui sera en ligne avec nous. Selon elle, nous devons tous y être vigilants, surtout dans le contexte actuel. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de préliminaires.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Léa. Écoutons-la.
Salut Jimmy, salut Mélanie, merci pour votre émission. Alors moi en fait je vous appelle parce que mon fils de 8 ans n'arrête pas de nous piquer notre dentifrice avec mon mari alors qu'on lui en a acheté un spécial pour enfants. Je voulais savoir si c'est grave ou pas parce qu'il en abuse pas mal en prenant grande quantité et moi ça m'inquiète un peu. Je voulais avoir votre réponse et je vous remercie d'avance, continuez comme ça.
Merci beaucoup Léa pour vos encouragements et votre question. Alors pour vous répondre, elle était notre invitée jeudi, c'est le docteur Noémie Schlossenberg. Elle est pédodontiste dans les Hauts-de-Seine. Pédodontiste, ça veut dire docteur des dents des enfants, quoi.
Ce qui est important surtout, c'est qu'avant 6 ans, que les enfants utilisent des dentifrices pour enfants. Parce qu'on a moins de fluor et comme on ne contrôle pas exactement la quantité de dentifrice qu'ils ingèrent, il ne faut pas qu'on soit en surdosage. C'est surtout là que c'est important. À partir de 7 ans, les dentifrices, de toute façon, adultes ou pas, ils ont la même dose de fluor. Il faut juste faire un petit peu attention à la composition des dentifrices. Par contre, le fait qu'ils en mettent effectivement beaucoup, bah, le dentifrice, il y a quand même des choses dedans qui ne sont pas forcément naturelles, qu'il ne faut pas forcément avaler entre grande quantité, donc il vaut mieux qu'il en mette quand même beaucoup moins. On peut lui dire, bah, tu mets comme un petit poids, un petit poids un peu gros, et puis ça suffit. Il ne faut pas mettre comme dans les publicités où ils en mettent une tonne, un gros bout, il faut mettre un petit poids.
Très bien, c'était donc le docteur Schlossenberg au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une autre question, celle-ci elle est pour vous. C'est Michel qui vous demande très concrètement de répondre à la question suivante. Il dit, un animateur télé n'a pas pu venir sur le plateau d'une émission un mardi, car il avait été déclaré cas contact, soi-disant officiellement, mais comme par magie, il était de retour sur le plateau, enfin un autre plateau télé, dès le dimanche suivant, donc juste 5 jours plus tard. Pouvez-vous me dire, Jimmy, si les règles sont différentes en fonction des gens? Car je pensais que c'était 7 jours d'éviction sociale pour tout le monde. Y a-t-il des exceptions quand on bosse à la télé? Bon, c'est un peu cash hein, comme question, mais on peut comprendre effectivement cette interrogation parfois des téléspectateurs ou des auditeurs. Jimmy, quand on est cas contact, d'abord vous allez le confirmer, il n'y a aucune exception, y compris pour les gens qui bossent à la télé, on est d'accord?
Non, mais je pense qu'ils sont extrêmement vigilants de la sécurité et de l'environnement dans lequel ils évoluent. Évidemment que la télé, bah, souvent, bah, on ne porte pas de masque parce que c'est le métier de télévisuel. Nous, à la radio, on porte un masque parce que ça ne s'abîme pas la qualité d'écoute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, lorsque vous êtes cas contact et que c'est une personne avec qui vous vivez régulièrement, si c'est vos enfants par exemple, eh bien, d'abord, il faut vous faire tester d'emblée parce que peut-être que vous êtes déjà positif et donc on va pouvoir mettre l'isolement dès le départ.
Un peu plus tôt, ouais,
et puis, à 7 jours. Alors, on peut imaginer que peut-être que dans la définition du cas contact, il y a peut-être eu un chevauchement. Peut-être que finalement.
Oui, je veux dire, parce que bon, il cite pas l'animateur télé, on s'en fiche, de toute façon, de savoir de qui on parle vraiment. Mais on a su qu'il était cas contact le mardi, mais en réalité, il était peut-être cas contact depuis 3 jours déjà.
Exactement. Donc ouais, probablement qu'au bout d'une semaine.
On respecte les règles.
Oui, on a eu de nombreux animateurs qui ont eu justement de l'éviction. Et qui sont
récemment, Anne-Sophie Lapix qui n'a pas présenté le journal
exactement.
Pendant plusieurs jours.
On est soucieux, un, à la télé, je pense, de montrer l'exemple et deux, de ne pas mettre en danger les autres. Et à la radio, même chose. Donc. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur en vouloir. Et peut-être qu'il y a eu un petit pas loupé sur la déclaration du cas contact, mais c'était peut-être un petit peu avant que le mardi qu'on a pu annoncer.
Très bien. Si c'est donc 7 jours pour tout le monde, hein, si on est cas contact. D'ailleurs, rappelez-nous quand même, c'est quoi un cas contact? Il faut avoir eu quel type de... Par exemple, nous deux, on aurait un de nous qui serait contaminé, on l'apprend le lendemain, vu qu'on est masqué, même si on passe une heure ensemble, est-ce qu'on est cas contact?
Eh bien non,
de
justement. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que le gouvernement a changé les règles quant à la distance. Désormais, c'est 2 mètres de sécurité.
On a 2 mètres,
c'est pas suffisant, on a un bon mètre et demi, à mon avis, voire 2 mètres.
Je suis pas très bonne en calcul de distance.
Non, vous êtes meilleur journaliste que bricoleuse d'affection. On est bien à 2 mètres l'un de l'autre. Il faut passer, si ce n'est pas un variant, 15 minutes dans une pièce isolée, sans masque.
D'accord.
Parce qu'imaginez, moi je fais des visites à domicile, si toute la journée j'étais défini comme cas contact, je ne pourrais plus travailler. Et puis pour les variants anglais, sud-africains et brésiliens, le 15 minutes n'est plus nécessaire. Si vous êtes dans un lieu clos, sans masque, et quelle que soit la durée du contact, vous êtes du coup à ce moment-là
parce que plus contagieux, on comprend.
Exactement.
Et je crois que la durée d'isolement, justement, en cas de contamination par un variant, donc l'anglais ou le brésilien ou le sud-africain, c'est un peu plus long. C'est plus 7 jours, c'est 10 jours, c'est ça?
Exactement.
Pourquoi
10 jours, puisqu'on pense que c'est un peu plus contagieux. Et donc, pour les variants, d'ailleurs, quand vous faites une PCR, désormais, toutes les PCR positives au coronavirus doivent avoir une espèce de génome. On doit identifier pour savoir est-ce que c'est vraiment un variant. Si oui, lequel? Et si c'est le variant sud-africain ou brésilien, c'est 10 jours d'isolement et puis une PCR de contrôle pour être sûr que vous n'êtes plus
avant
contagieux.
Avant de revenir au travail
avant
ou à l'école.
De revenir. Chose qui n'était pas vraie avec le coronavirus classique. On ne faisait pas de test de contrôle. Au bout d'une semaine, si vous n'avez plus de fièvre
depuis
48
heures, hein, je crois que,
ouais. Et avec l'anglais non plus, c'est une semaine. Mais le variant sud-africain et brésilien, c'est 10 jours et PCR de contrôle.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée du jour, c'est Sylvie Chocron, neuropsychologue. Elle va nous décrypter de façon limpide certaines des choses qui se passent dans notre cerveau à tous au quotidien. Pourquoi certaines odeurs, par exemple, mettent notre mémoire en ébullition? On parlera aussi du pouvoir quasi magique du rire. Que se passe-t-il au niveau cérébral quand on raconte des blagues? Rire à gorge déployée, qu'est-ce que ça provoque au niveau cérébral? On va vous détailler tout ça. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite en studio avec nous notre invitée pour le dossier du jour, c'est vous Sylvie Chocron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Et vous êtes également autrice du livre Une journée dans le cerveau d'Anna, qui est paru aux éditions Erol. Alors vous étiez déjà venue nous parler de votre livre il y a quelques mois, qui a un titre de roman, mais alors c'est un peu un roman, mais expliquez-nous rapidement ce que vous avez voulu faire dans ce bouquin pour ceux qui n'auraient pas écouté la première fois.
Tout d'abord, merci de me réinviter. Effectivement, j'ai voulu écrire un récit pour pouvoir raconter ce qui se passe dans notre cerveau au quotidien et surtout à notre insu. Donc je l'ai fait comme si je racontais vraiment une histoire, mais en même temps j'ai tenu à préciser toutes les références scientifiques, à les citer et même à mettre des petits chapitres à la fin du livre pour ceux qui voudraient aller plus loin, parce que je voulais en même temps que ce soit très accessible, mais en même temps très documenté avec des recherches récentes.
C'est vraiment réussi, honnêtement. Jimmy.
Alors, on va garder le même principe dans cette émission, aller finalement du matin jusqu'au soir et observer des choses qui peuvent nous arriver à tous et dont l'origine est dans notre cerveau. On va commencer à 7h30. Anna, elle aime l'odeur du café, c'est sa Madeleine de Proust, comme beaucoup. Celle qui lui rappelle le petit-déj en famille, les câlins du matin de sa maman. Et ça, c'est à cause de son amygdale cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que pour les gens, l'amygdale, c'est au niveau de la gorge.
Oui, c'est ça. On a une autre amygdale tout au fond de notre cerveau. Et effectivement, ce qu'on sait maintenant, c'est que les régions dans notre cerveau qui gèrent les odeurs, les émotions et les souvenirs, elles sont côte à côte. Elles sont vraiment dans un mouchoir de poche. Et c'est pour ça que les odeurs évoquent tellement les souvenirs et sont tellement associées aux émotions. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un endroit où vous n'êtes pas allé depuis longtemps, par exemple l'école de votre enfance, ce qui va arriver tout de suite, c'est la perception des odeurs qui va tout de suite susciter les souvenirs que vous avez dans cet endroit-là.
C'est quoi votre odeur comme ça? Moi, c'est la cannelle, ça me rappelle ma grand-mère et son riz au lait. Vous, c'est
quoi? C'est le kebab, ça me rappelle les années où j'étais étudiant. Non, mais c'est sûr, je rentre dans un kebab, je suis le roi du pétrole. C'est pas si loin, exactement. Contrairement à Mélanie, c'était il y a bien longtemps.
D'ailleurs, les personnes qui souffrent d'une dépression peuvent avoir des difficultés, je crois, à détecter les odeurs. Et ça viendrait donc de leur cerveau et pas de leur nez, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Donc on a montré récemment que les personnes qui sont un petit peu déprimées, finalement, perçoivent comme plus désagréables les mauvaises odeurs et perçoivent moins les odeurs agréables. Et d'ailleurs, les gens qui ont eu le Covid et qui ont perdu l'odorat pendant l'infection se sont rendus compte à quel point les odeurs sont importantes pour notre humeur.
C'est vrai, ça manque. Hein,
et donc ça veut dire qu'on pourrait avoir de la thérapie olfactive, une forme de rééducation pour retrouver la joie de vivre et peut-être même améliorer un état dépressif.
Les jours où vous serez grognon, je vous amène un kebab et ça va mieux.
D'un coup, là, c'est parti, c'est la vida loca.
Vous avez tout à fait raison. Il y a des essais actuellement déjà de thérapie par les odeurs.
Mais
justement parce que non seulement les odeurs sont très, très, très importantes pour notre humeur, pour notre état vraiment psychique, mais aussi parce qu'elles vont pouvoir évoquer des bons souvenirs, des émotions positives et donc finalement venir contrer ces pensées dépressives.
Alors Sylvie Chocran, Anna, donc le personnage principal de votre livre, c'est une citadine active, elle travaille dans un bureau et en milieu de matinée, après une réunion très stressante, elle a besoin de faire un break. Alors ça peut nous arriver à tous, à faire une petite pause, mais elle se met devant son ordinateur, semblant un petit peu travailler, elle regarde en boucle comme ça des vidéos drôles. Ça peut nous arriver à tous de faire ce genre de choses, d'ailleurs sur le portable même. C'est une fille qui a de l'humour et ça, elle le doit à son système limbique. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors le système limbique, c'est un circuit dans le cerveau hein, qui va gérer plusieurs choses, la motivation, la mémoire, les émotions, etc. Et c'est aussi lui qui nous signale qu'une situation est drôle. Donc c'est lui le premier à finalement détecter le côté amusant d'une situation. Puis après, il va y avoir une cascade d'événements qui ira jusqu'au rire et qui va impliquer d'autres régions cérébrales, notre cortex frontal en avant de la tête, et puis plusieurs régions de notre cerveau.
Les gens qui n'ont pas d'humour, il y a un défaut dans le système limbique ou pas, je ne sais pas.
Alors justement, c'est une question qu'on se pose. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il faut que les gens trouvent ce qui les fait rire parce qu'on ne rit pas tous des mêmes choses en même temps. Et donc, du coup, effectivement, le rire et tout cet ensemble de régions qui s'apparentent finalement au circuit du plaisir et de la récompense, qui est le circuit aussi de la dopamine, de ce qui nous fait véritablement plaisir, c'est un plaisir cérébral, mais ça va être aussi un plaisir physique du fait des muscles qui vont être mis en branle lorsqu'on va rire.
Donc ça veut dire qu'en cette période un peu morose, un peu compliquée, dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas hésiter à utiliser du rire comme une arme anti-stress. Vous parlez de la dopamine, donc ça va activer des circuits particuliers. Le fait de rire peut vraiment nous aider.
Donc alors, se forcer un peu, même s'il le faut, si en ce moment on n'a pas trop envie de rire.
Alors c'est vrai que rire, et surtout dans des périodes stressantes, c'est très important. Et on dit que le rire, c'est un antagoniste naturel du stress. Parce que ça va faire baisser le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc il y a vraiment un effet chimique. Hein. Plus on va activer le circuit de la récompense. Et puis en général, on ne rit pas seul. Et donc il y a aussi l'aspect interaction sociale. Et puis il y a la détente physique. Donc se forcer à rire, je suis pas sûre parce qu'en fait, par exemple,
regarder
les ateliers...
des vidéos d'un mec qui est un humoriste qu'on adore, quoi.
Voilà,
et là,
parce
ça va
que
marcher, quoi.
Rire avec l'aspect uniquement musculaire ne comporte pas ce plaisir cérébral. Mmh. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qu'on trouve drôle d'un point de vue intellectuel.
D'accord. Et le rire, vous le disiez un petit peu déjà avant, mais c'est contagieux. C'est-à-dire, comment ça passe d'un cerveau à l'autre ? Parce que finalement, bon, la contagion, on pourrait imaginer pour un virus, mais pour le rire, ça paraît moins évident. En fait, je crois qu'on a un détecteur de rire au niveau cérébral, c'est ça ?
Exactement. Alors, non seulement on a un détecteur de ce qui est drôle, qui nous fait rire, mais on a aussi un détecteur de rire. Et du coup, et c'est d'ailleurs pour ça que dans certaines séries, on met des rires artificiels, parce que quand vous voyez quelqu'un rire, c'est extrêmement dur d'inhiber votre propre rire. C'est pour ça qu'on parle de contagion. C'est un petit peu comme le bâillement. Et oui, donc, du coup, de voir quelqu'un rire va vous faire rire inévitablement. Et dans la littérature, on retrouve même des descriptions d'épidémies de fou rire qui se sont prolongées sur des semaines dans des internats en particulier qu'on a dû fermer pour arrêter l'épidémie, parce que véritablement, on peut parler de contagion émotionnelle.
C'est mieux que l'épidémie de Covid.
Largement mieux.
Pas besoin de vaccin, pas besoin de masque. Vivement qu'on ait ce genre d'épidémie.
On ferme les écoles quand même, mais bon, c'est pas grave. Hein.
Exactement. Alors, est-ce que d'ailleurs, ça peut aider des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, le fait de rire, est-ce que ça peut les aider ?
Alors, tout à fait. On sait maintenant que dans toutes les maladies neurodégénératives, utiliser le rire va d'abord faire ressurgir des souvenirs qui sont associés à ces émotions positives, mais va aussi mobiliser l'attention et améliorer l'interaction. Et du coup, on peut être beaucoup plus facilement en contact avec une personne qui a des signes un petit peu de
maladie
démence, de maladie neurodégénérative,
ouais,
de troubles cognitifs. On peut susciter vraiment son intérêt et maintenir son attention grâce au rire. Donc effectivement, c'est aussi utilisé dans les services de gériatrie.
Pour terminer sur le rire, vous dites aussi qu'on peut utiliser le rire pour séduire aussi. Alors pour la longévité dans le couple, c'est vraiment bon pour tout le rire, c'est incroyable. On est le lendemain de la Saint-Valentin, donc expliquez-nous comment ça marche tout ça neurologiquement.
Alors, vous avez raison, il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont montré que si un homme arrive à faire rire une femme pendant un rendez-vous, ben, le nombre de chances qu'elle soit séduite augmente de façon très importante.
Il y a des expressions, hein, femme qui rit, tout ça.
Exactement.
C'est pas pour rien.
Alors, c'est pas qu'un mythe, hein, visiblement.
Voilà, ça m'inquiète que Mélanie, vous rigolez beaucoup dans cette émission. Donc attention, c'est rire bienveillant, évidemment. Hein, on ne veut pas de problème.
Et donc, effectivement, on pense que le rire augmente la longévité.
Dans les couples qui rient beaucoup
la
ensemble.
La durabilité du couple.
Ouais.
On sait aussi que le rire va doper notre système immunitaire. Donc même notre propre longévité est augmentée avec le rire. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut rire sans en abuser.
Très bien. Sylvie Chocron, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer à suivre le quotidien d'Anna et ce qui se passe dans son cerveau. Anna, c'est le personnage du livre de notre invité. Et en suivant la journée de cette jeune fille, on perce quelques-uns des mécanismes de notre cerveau à tous. C'est passionnant, on y revient très vite, promis. Alors à tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invitée, c'est vous, Sylvie Chocron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Mais vous êtes également l'autrice du livre Une journée dans le cerveau d'Anna, qui est paru aux éditions Erol. Alors après le déjeuner, Anna, le personnage principal de votre livre, elle a un petit coup de mou à son bureau. Elle se rend compte à un moment que ça nous arrive à tous, hein, l'esprit divague un petit peu, elle part. Alors elle dort pas, mais elle est plus vraiment là. Et vous dites qu'on ne doit pas s'inquiéter de ces moments d'absence qu'on peut tous avoir parfois.
Bah oui, tout à fait. On est soumis en fait à tellement de stress, on fait tellement de tâches en même temps et puis en plus on ne dort pas assez la plupart du temps, qu'on a des petits troubles de l'attention dans la journée et surtout quand on est en train de faire mille choses à la fois, tout d'un coup on décroche et on se rend compte au bout de quelques secondes
qu'on n'était plus là.
Exactement.
Ça fait peur un peu parce que moi ça m'est déjà arrivé en conduisant par exemple quand on réalise quelques secondes après qu'on avait disparu, enfin en tout cas le cerveau n'était plus là. Mais le cerveau il fait quoi quand il se met en pause comme ça?
Quand vous conduisez par exemple, vous êtes en pilotage automatique et effectivement votre cerveau continue de gérer tout ce qui est à gérer pendant que votre pensée s'est échappée. Et on sait maintenant que le cerveau rentre dans un mode qu'on appelle par défaut et que pendant que vous, vous avez décroché, lui, il travaille de manière très importante.
D'accord.
Bah c'est ce qui se passe quand vous me parlez, Mélanie. D'un coup,
vous êtes par défaut. Ouais,
mais justement, par défaut, ce serait la signature de notre cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire un cerveau qui se met en mode par défaut? En pilotage automatique?
Alors en fait, depuis 20 ans, on a beaucoup étudié l'activité cérébrale pendant qu'on fait des tâches cognitives et on s'est rendu compte qu'on active tous à peu près les mêmes régions quand on parle, quand on compte, quand on regarde. Mais ce que fait notre cerveau quand nous ne faisons rien, c'est sans doute son activité de base vraiment et c'est pour ça qu'on dit que c'est la signature de notre cerveau parce que c'est vraiment notre empreinte en quelque sorte. C'est ce qu'il fait lui quand nous ne sommes pas engagés dans une tâche.
C'est ça qui se passe finalement dans le cerveau quand on pratique par exemple la méditation, alors de manière ponctuelle ou régulière. C'est ça, c'est le cerveau qui est là, qui travaille, mais nous, on n'est plus trop là, on focalise plus.
Exactement, il y a deux types de méditation. Il y a la méditation où vous allez laisser votre esprit vagabonder, et là, on est effectivement exactement dans le même cadre. Et puis, il y a la méditation de pleine conscience que les gens pratiquent de plus en plus, où là, au contraire, vous allez mobiliser votre attention sur une information,
votre respiration,
un bruit, la sensation, par exemple, du sol sous vos pieds.
Donc là, on est là quand même.
La chaise. Et là, du coup, c'est une autre façon d'utiliser votre attention. Vous allez l'orienter sur une information. Et le fait de la canaliser sur une information fait qu'ensuite, quand vous allez vous remettre à travailler ou à faire autre chose, vous avez remobilisé vos capacités attentionnelles.
Donc ça, c'est la méditation en pleine conscience. Mais est-ce que le fait de faire une forme de vagabondage intellectuel, comme vous dites, ça peut avoir un bénéfice quand on a une journée à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de s'arrêter pour se divertir? Est-ce qu'on peut espérer tirer des petits avantages du vagabondage intellectuel? J'aime bien ce terme.
C'est joli.
Oui, effectivement, et ce n'est pas un petit bénéfice, c'est un grand bénéfice, parce que quand votre cerveau vogue, comme ça vos pensées voguent, on parle de pensées non contraintes et on parle même de mémoire non contrainte. Et si on utilise le terme de mémoire, c'est que pendant ce vagabondage, en fait, on va lier des informations les unes aux autres, on va se projeter dans l'avenir, on va revivre des événements.
Un peu comme quand on dort, non, finalement
un peu comme le rêve éveillé, ouais, en fait, vous avez tout à fait raison. Et c'est pendant ces moments-là qu'on va être le plus créatif, voire même qu'on va résoudre des problèmes. Donc, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Il ne faut pas absolument détourner notre attention en allant sur nos mails, sur notre téléphone, pas du tout. Il faut ces moments de vide, parce que c'est pendant ces moments de vide que le cerveau va pouvoir finalement digérer et associer des informations et créer.
Bon, ne pas hésiter donc à mettre son cerveau en mode par défaut, hein, Jimmy, c'est là
que
vous allez devenir créatif. Alors, Anna, dans sa journée de travail, elle a à un moment donné la DRH qui lui fait passer un test de quotient intellectuel. Alors, ce type de test, est-ce que ça permet vraiment, parce que c'est de plus en plus utilisé hein, dans les services de ressources humaines, notamment pour comparer un candidat à un autre, est-ce qu'on compare vraiment les intelligences des uns et des autres? Est-ce que, d'ailleurs, l'intelligence, c'est vraiment quelque chose qui se mesure?
Alors, je suis ravie que vous posiez la question parce qu'il y a de plus en plus de tests de QI qui sont réalisés en entreprise ou pour des enfants. Alors qu'en réalité, ce qu'on mesure quand on fait passer ces tests, c'est notre capacité à répondre à des questions censés mesurer l'intelligence. Ce qui fait toute la différence, parce que ces questions, elles utilisent le langage, la vision, l'attention, la motricité, etc. Si vous avez une difficulté dans un domaine, imaginons que vous ayez un problème de vue ou d'audition, ou du mal à faire attention, ou encore qu'on vous teste en français alors que ce n'est pas votre langue maternelle, vos résultats vont être un petit peu diminués.
Un peu mauvais, ouais.
Ça ne veut pas du tout dire que vous n'êtes pas intelligent, ça veut juste dire qu'à ces tâches censées mesurer l'intelligence, vous avez eu des difficultés. Donc il faut se méfier, ne pas les utiliser à outrance et surtout toujours s'interroger sur l'origine de cette diminution des performances.
Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui m'angoisse, moi, les tests de QI.
J'avoue, j'ai jamais voulu en passer. Moi, ça me fait peur d'avoir un chiffre nul.
Des fois, il y a des shows comme ça à la télé, on peut mesurer son QI. J'ai pas envie de savoir parce que je pense que je vais avoir un mauvais score, mais j'ai juste pu. On a chacun des capacités, des avantages et en tirer profit pour vivre tous les jours. On a tous des forces et des faiblesses. Du coup, ça veut dire qu'il faut. Parce que, à part chez les enfants qui vont avoir peut-être un trouble du langage, un retard mental, chez qui on peut imaginer que ça peut avoir un impact, mais pour l'adulte lambda, qu'est-ce que ça peut lui apporter de faire un test de QI, si ce n'est un, de le blesser, ou deux, de gonfler de façon artificielle son orgueil? Donc les tests
de QI,
ça sert à rien.
Vous avez tout à fait raison, il y a très peu d'intérêt. Les seuls intérêts qu'on peut y voir, c'est par exemple quand quelqu'un a eu un souci et qu'on lui fait passer un test à un moment donné, qu'il est rééduqué, qu'on essaye de voir s'il a récupéré.
Voir si ça s'est amélioré.
Mais
voilà.
Chez un sujet lambda, d'abord le QI n'est pas stable, en fonction de la nuit que vous avez passée, de votre motivation
à passer
le test.
Vous avez mangé, bu,
voilà, de la personne en face de vous, de vos capacités attentionnelles, de si vous êtes disponible intellectuellement ou pas, parce que si vous avez un souci, vous ne pourrez pas recruter vos capacités. Donc votre test va être influencé par tous ces facteurs. Donc il faut absolument ni user ni abuser des tests de QI.
Alors votre personnage Anna, en fin de journée, c'est l'hiver dans le bouquin d'ailleurs en ce moment aussi, il fait nuit très tôt, elle a souvent des petites envies comme ça à la fin de la journée, de grignoter un truc un peu sucré, un peu gras, de boire un apéro avec ses amis, pourquoi pas. D'ailleurs pourquoi pas, mais vous dites que c'est lié à la lumière naturelle qui baisse, donc c'est pour ça que fin de journée, comme ça, c'est le moment où on a envie de ces petites choses-là. Clairement, la lumière naturelle, elle influence nos envies, nos petites envies comme ça.
Alors oui, vous savez sans doute qu'on est réglé par un cycle qui fait à peu près 24 heures. Et ce cycle, il est réglé par la lumière extérieure. Et il y a un lien très fort entre la lumière extérieure et nos envies. Tout simplement parce que quand la lumière pénètre dans nos yeux, elle va être finalement traitée par des cellules qui sont au fond de la rétine, qui sont elles-mêmes directement en relation avec le circuit du plaisir et de la récompense. Donc il y a un lien direct entre la lumière et notre sensation de plaisir. Et d'ailleurs, on dit que l'été, entre 17h et 19h, il y a une lumière particulière qui finalement magnifie nos désirs, nos envies et joue directement sur notre humeur.
Alors Anna, elle a un point commun avec Mélanie, c'est qu'elle adore les ragots.
N'importe quoi.
Et donc
c'est pas
en
gentil.
Fin de journée, les langues se délient à la fois Europe 1 et
moi,
dans votre
livre.
Moi,
c'est toute la journée.
C'est ça. Mais ça nous ferait du bien chimiquement les ragots. C'est peut-être pour ça que Mélanie est en pleine forme. Elle a beaucoup de ragots avec Mélanie.
Très menteur, on en parlera après de ça.
Mélanie, non seulement a tout à fait raison, mais si en plus elle échange des ragots avec vous, c'est qu'elle considère que vous êtes son amie.
Ah bah non, elle m'en donne même pas. Je suis au courant de rien du tout. Moi, Mélanie, elle me dit rien. Elle dit tout à Benjamin Lévesque qui est là, qui est en train de se gosser, il rigole comme un idiot là.
Qu'est-ce qui se passe chimiquement dans ma tête quand je dis des ragots?
Donc,
oui.
En fait,
j'ai appris que je n'étais pas votre amie déjà, Mélanie, donc je suis très fâchée.
Quand on échange des secrets ou qu'on colporte des ragots, on sait que finalement ça va être le ciment de la relation. On partage quelque chose avec quelqu'un, ça va souder en quelque sorte l'amitié. Et on sait qu'on a une véritable libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui est aussi libérée au moment de l'accouchement, au moment du coup de foudre.
Et au moment des ragots, alors c'est incroyable.
Voilà, et dans ces petits moments où on va échanger des secrets et qui vont finalement solidifier la relation.
C'est très intéressant. Sylvie Chocron, on va continuer bien sûr cet entretien entre amis dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
On revient très vite dans Sans Rendez-vous. On vous propose cet après-midi de décrypter notre quotidien par les neurosciences. On vous apprend à chouchouter votre cerveau au passage et surtout à comprendre ce qui se passe dans votre tête à chaque instant de votre journée. On y revient très vite. De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Sylvie Chocron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Alors, le personnage de votre livre, Anna, comme nous, quand elle rentre chez elle après le travail, alors qu'elle doit se préparer pour une soirée caritative, elle est subitement atteinte d'un truc assez grave, la flémingite aiguë. Vous connaissez Jimmy ? Impossible de se lever de son canapé. Elle est même un peu déprimée. Et c'est là justement qu'elle devrait faire du sport, bouger, s'éprouver, ça a amélioré son humeur.
Alors tout à fait, on sait que le sport ça fait du bien au corps, mais ce qu'on sait de plus en plus, c'est que ça fait aussi du bien à notre cerveau. Et donc il y a une libération d'endorphines qui sont les hormones du plaisir et forcément ça va lui faire du bien aussi moralement.
Donc on se lève du canapé, on se dit allez hop, quelques jumps, quelques
squats. Ça veut dire que pour lutter justement contre la sinistrose ambiance, c'est difficile le climat. À la fois le climat, la météo, elle n'est pas bonne, sauf peut-être dans le sud de la France où il fait assez beau, mais pour se faire du bien, il va se passer vraiment quelque chose au niveau de nos muscles, un lien entre le muscle et le cerveau, ça paraît parfois contre-intuitif.
Ben oui, mais en fait, c'est parce qu'on oublie que faire du sport, finalement, ça va demander un apport supplémentaire en sang et en oxygène dans tout le corps, et donc aussi dans le cerveau. Et quand le cerveau est mieux irrigué, mieux nourri, ben il va fonctionner plus. C'est aussi pour ça que le sport protège contre certaines maladies neurodégénératives. On disait avant qu'il fallait faire des exercices de mémoire pour protéger son cerveau. Puis on a dit qu'il fallait faire du sport. Et maintenant, on sait qu'il faut faire du sport, si possible, en faisant une activité intellectuelle, parce que les deux vont se cumuler pour protéger notre cerveau.
Jimmy, vous seriez peut-être moins bougon si vous bougiez plus. Voyez, c'est, voilà. Alors, ensuite, Anna, donc elle va partir en voiture pour sa soirée caritative, puisqu'elle a réussi à se motiver à se lever de son canapé. Et elle hésite à ce moment-là à utiliser un GPS pour faire du bien à son cerveau, justement. Elle et nous, c'est vrai que vous dites qu'il vaut mieux utiliser son GPS interne. On en a tous vraiment un, parce que moi, je crois qu'il a été oublié à la naissance. Hein,
mais... je suis sûre que vous avez été livré avec.
Ah, mais je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais réussi à me déplacer, à voir où je suis, ça savoir si vous prendre à droite, à gauche, je ne sais jamais.
Alors en fait, effectivement, il y a des chercheurs qui ont eu un prix Nobel pour ça, pour avoir découvert que dans notre cerveau, on a l'équivalent d'un GPS. Et en fait, on a des cartes spatiales, un petit peu comme quand vous jouez à la bataille navale, vous savez, avec des colonnes et des lignes. Et on peut repérer les endroits, les mémoriser et se repérer dans l'espace.
Et on l'a vraiment tous. Hein,
et on l'a vraiment tous. Et il faut vraiment s'en servir parce que ça fait partie de ces fonctions dont on se sert de mieux en mieux, plus on s'en sert. Et au contraire, à l'inverse, si on utilise le GPS de notre téléphone ou de notre voiture, bah peu à peu, on va avoir du mal à se servir de notre propre GPS interne.
Ça veut dire qu'il faut se faire un peu violence. Moi, je travaille à SOS Médecins et donc je me déplace au domicile des gens.
Avec le GPS, Jimmy,
avec le GPS, ouais. J'ai commencé en 2013. Et évidemment, je me suis servi du GPS parce qu'il était disponible. Or, les vieux médecins, d'ailleurs, peut-être certains nous écoutent en ce moment.
Comme les vieux taxis.
Comme les vieux taxis, 40
forts.
Ans qui sont à SOS Médecins. Ils connaissent toutes les rues de Paris, tous les numéros pairs ou impairs, exactement par quel boulevard le prendre. C'est-à-dire qu'il faut un peu se faire violence et il faut se forcer.
C'est un entraînement. En fait. Il faut se forcer. Et d'ailleurs, vous parliez des taxis. Il y avait eu une recherche très, très célèbre sur les taxis londoniens qui avait montré qu'ils avaient une hippocampe, donc cette structure dans le cerveau qui gère justement cette mémoire spatiale, qui était beaucoup plus développée que les sujets lambda.
Mais ça m'étonne pas du tout. Hein,
donc, en fait, c'est une fonction à exercer. Il ne faut pas céder à la facilité.
En gros, c'est cette espèce de neurone de lieu, là, ces cartes qu'on a dans la tête, finalement, si on ne les met pas en action, elles s'éteignent. Quoi. Donc, c'est ça. J'ai pas dû allumer assez
souvent. Non, mais l'idée, c'est de la contrainte de sortir de sa zone de confort. C'est valable avec le GPS, mais est-ce que c'est valable peut-être pour d'autres choses de la vie quotidienne, ce salaire de sa main gauche quand on est droitier.
Ce qu'on est en train de dire pour le GPS s'active, vaut vraiment pour tout, parce que si on prend l'habitude de déléguer nos capacités, que ce soit nos capacités spatiales, que ce soit notre mémoire, que ce soit notre vision, vous voyez de plus en plus des gens qui regardent avec leur téléphone, si on prend l'habitude d'externaliser nos capacités, on les utilise de moins en moins et on risque de les perdre. Et il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est un organe à résoudre des problèmes. Et donc, si vous lui donnez un problème à résoudre, il va s'activer pour essayer de le résoudre. Si, au contraire, vous lui posez aucune contrainte, du coup, il ne va pas s'activer pour essayer de résoudre le problème.
Alors, Anna, elle va ensuite à sa soirée caritative et là, elle observe des toiles, celles qui sont présentées à cette soirée-là. Il se passe quoi dans son cerveau pour que, je crois que pour l'activité soit maximale, d'ailleurs, il vaut mieux se mettre bien en face d'une œuvre d'art pour la regarder et en profiter.
Alors, vous avez raison, il y a des équipes maintenant de neuroscientifiques, il y a une équipe très célèbre en Italie qui étudie ce qui se passe dans notre cerveau quand on observe une œuvre d'art. Et donc, on sait que dans les secondes qui suivent le moment où on commence à la regarder, on a une activité qui va nous dire déjà si on aime et si on n'aime pas. Activité, elle est d'autant plus intense qu'on est bien en face parce qu'il faut que nos deux champs visuels puissent percevoir vraiment correctement l'œuvre.
Alors, Mélanie est aussi bonne artiste que moi, je suis bon chanteur d'opéra, donc c'est vous dire le niveau. Mais justement, est-ce que dans le cerveau d'un artiste et dans le cerveau de Mélanie se passe à peu près la même chose? Quelqu'un qui peint des toiles, est-ce qu'il a le même mode de fonctionnement que celui de Mélanie ou même moi? Je m'inclus.
Je dirais non, mais bon, on va voir.
En fait, figurez-vous que la différence, c'est peut-être que vous inhibez
Mais petite,
ce processus.
Mais petite, j'étais assez douée en dessin. Hein, mais...
Voilà, et en grandissant, en fait, on va s'inhiber. Et les artistes qui créent, donc il y a eu une étude faite sur des rappeurs, on les a mis dans une IRM fonctionnelle, on a enregistré leur cerveau pendant qu'ils créaient une chanson, qu'ils composaient. Et là, on s'est rendu compte qu'ils activent une aire qu'on a aussi, qui est l'aire de la créativité, et ils inhibent leur aire de contrôle. Ah et donc, en fait, ils laissent émerger comme ça des associations de la création, alors que nous, probablement, on a une chape de plomb, un petit peu, un circuit de l'inhibition qui vient nous empêcher de laisser libre cours à notre imagination.
Alors, puisqu'on parle des interactions entre les arts et notre cerveau, dans votre livre, vous parlez aussi de l'impact de la musique au niveau cérébral. Et notamment, vous écrivez que pour que ce soit vraiment agréable, il vaut mieux écouter des morceaux suffisamment complexes. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous.
Alors, effectivement, ce qui est agréable quand on écoute de la musique, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer, de pouvoir analyser ces phrases musicales comme si c'était du langage. Et notre cerveau donc est très engagé dans cette tâche. Et finalement, il a envie, en même temps que ce soit prédictible, donc pas de la musique expérimentale, mais en même temps d'être un petit peu surpris, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un minimum de complexité. Si c'est trop régulier, trop monotone, en fait, notre cerveau ne va pas être intéressé.
10 000 écoutes que du rap, je ne sais pas si ça dit quelque
mais
chose de son
rimes
cerveau.
Riches, mais des rimes très riches, il n'y a pas de rimes pauvres dans le rap que j'écoute. Quand on parle de musique, on pense aussi notamment à celle qu'on va faire écouter aux enfants. Est-ce que leur apprendre à jouer d'un instrument, c'est bon pour leur cerveau, pour la plasticité cérébrale?
Alors vous avez tout à fait raison, parce que finalement, pratiquer un instrument de musique et apprendre toutes les règles de solfège, etc., ça va activer l'attention, les processus de contrôle, hein, parce qu'il faut contrôler ce qu'on fait avec ses doigts pendant qu'on joue, la mémoire, l'espace, etc., la vision, la lecture d'un nouveau code, d'une nouvelle langue. Et donc, c'est extrêmement bon pour tous les processus cognitifs.
Y compris pour les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des apprentissages,
exactement,
je crois, du langage écrit.
Et la musique a été très utilisée pour les troubles du langage ou les troubles de la lecture, parce que la musique comporte aussi cette notion de rythme qui est extrêmement importante pour le langage.
Est-ce qu'apprendre la musique, là on vient de parler des enfants, mais par exemple quand on est plus âgé, je ne sais pas, à 33 ans comme Jimmy, se lancer tout d'un coup dans des cours de violon par exemple, ou chez des personnes un peu plus âgées de je sais pas, 50, 60 ans, est-ce que ça a encore un intérêt du point de vue cérébral? Est-ce qu'on va en tirer un bienfait
Alors visiblement oui, parce qu'à tout âge, quand vous allez commencer un instrument et surtout si vous y jouez de manière très régulière, si vous avez le temps de vous entraîner, votre cerveau va vraiment se modifier au niveau morphologique et fonctionnel. Et on sait maintenant que la pratique de la musique protégerait aussi du déclin cognitif.
Donc, c'est
pas du tout anodin.
C'est pour ça qu'on nous fait apprendre de la flûte quand on était... Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était...
Oui, je crois. Oui.
Mais c'était une tannée, on voyait ça comme une contrainte. Alors que si on explique aux gens, voilà ce qui se passe dans votre cerveau quand vous apprenez d'un instrument...
Je suis sûr qu'ils en apprendraient la flûte différemment.
Mais peut-être qu'on apprendrait la flûte différemment.
Vous
donc,
avez raison.
Cet exercice, il n'est pas si bête, en fait.
On pourrait aussi échanger la flûte contre autre chose, mais ce qui est important, c'est vraiment le contrôle.
Oui, mais c'est pas cher, la flûte. C'est accessible à tous. Mais du coup, oui, c'est bien, il faut dire aux jeunes, la flûte, ça paraît chiant, ça paraît barbant, mais il va se passer des trucs magiques dans votre cerveau.
Qui peuvent même vous aider par la suite.
Ah oui,
c'est incroyable.
Le lien où...
On va inscrire tous les enfants à des cours de musique. Même écouter la musique simplement, déjà, on en a des bêtises.
Mais pas nous faire du pipeau, parce que ça, on a aussi des enfants qui sont des professionnels à ce niveau-là. Attention, hein, on
pas joueur de pipeau. Merci beaucoup, Sylvie Chocron, d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur ce qui se passe finalement dans notre cerveau tous les jours, des mécanismes qu'on comprend bien mieux grâce à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que rappeler le titre de votre livre, Une journée dans le cerveau d'Anna, paru aux éditions Erol. Merci encore, Sylvie.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Nous allons faire un point cet après-midi sur le Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, avec la cardiologue Claire Mounier-Veillé qui sera en ligne avec nous. Selon elle, nous devons y être vigilants, surtout dans le contexte actuel. Après notre cerveau, c'est notre cœur que l'on va chouchouter aujourd'hui. Donc restez bien avec nous sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, on va décrypter le Takotsubo. Et pour en parler, hein, vous êtes en ligne avec nous, professeur Claire Mounier-Veillé. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chef de service médecine vasculaire et hypertension au CHRU de Lille. Vous êtes cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Et donc vous lancez cette alerte sur ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. On est au lendemain de la Saint-Valentin. Ça veut dire que le Takotsubo, c'est une maladie cardiologique qui a vraiment un lien avec l'amour ou pas tellement finalement?
Ah ben, le Takotsubo, c'est le nom d'un piège à poulpe japonais déjà. Donc le cœur prend cette forme-là lorsqu'il est victime de cet excès de stress.
Comme une amphore, c'est ça ?
Voilà, comme une amphore, on peut appeler ça aussi le burn-out du cœur, hein, c'est un terme à la mode. Et effectivement, c'est plutôt des femmes d'ailleurs, hein, 9 femmes pour un homme, des femmes qui sont en général un peu anxieuses, stressées, fragiles émotionnellement. C'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement répété, ces femmes sont un peu plus stressées que d'habitude. Elles sont épuisées mentalement et puis... survient soit une rupture amoureuse, donc un événement négatif, mais ça peut être aussi un coup de foudre, hein, pourquoi pas. Donc ce choc émotionnel va en effet les fragiliser, va entraîner une libération d'hormones de stress et puis ça peut provoquer cette sidération du cœur.
Mais justement, professeur, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on entend le cœur brisé, évidemment qu'il ne se brise pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler physiologiquement ce qui arrive à notre cœur?
Alors, effectivement, donc ces hormones de stress, ce qu'on appelle les catécholamines, elles vont aller se nicher sur des petits récepteurs au niveau du cœur et des vaisseaux. Et du coup, le cœur va se retrouver totalement paralysé. Donc, c'est une insuffisance cardiaque aiguë. Il est dans l'incapacité, c'est un muscle, hein, le cœur. Et ce cœur est dans l'incapacité de se contracter, en tout cas pour la pointe du cœur. Donc, il n'y a qu'un tout petit morceau du cœur qui se contracte. Et finalement, on ne peut pas assurer la fonction de pompe normale du cœur. Et donc, ça donne de l'insuffisance cardiaque. Et cette paralysie, elle est normalement réversible. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Ouais. Claire Mounier-Veillé, si c'est le stress, hein, on a bien compris, qui est le principal pourvoyeur de Takotsubo. En ce moment, donc, il y a beaucoup de gens stressés. Mais est-ce qu'on a déjà des chiffres? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a déjà plus de cas de Takotsubo que d'habitude? On a des chiffres?
Oui, tout à fait. Normalement, quand il n'y avait pas cette pandémie Covid, on recense environ 1200 cas par an en France. Donc, c'est quand même pas très fréquent. Mmh. C'est 1% des hospitalisations pour infarctus du myocarde. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, on a notamment une étude américaine du mois de juillet dernier où ils ont noté qu'il y avait on multiplie par 5 le nombre de Takotsubo sur cette période de mars-avril. Sur le plan pratique, là par exemple au CHU de Lille où je travaille, on a environ un Takotsubo par semaine, donc c'est un petit peu plus, c'est 3 fois plus que d'habitude.
Oui, effectivement, donc on voit déjà l'impact.
Et justement Claire, avec votre fondation Agir pour le cœur des femmes, vous avez décidé d'en parler parce que justement c'est elles qui majoritairement sont touchées. Comment est-ce qu'elles peuvent savoir rapidement quand elles font un syndrome du cœur brisé?
Effectivement, Agir pour le cœur des femmes, c'est les 3 A du cœur. Donc on l'a monté avec Thierry Drillon dans ce sens-là, avec alerter, anticiper, agir. Donc en fait, anticiper, c'est déjà dire aux femmes, alerter d'abord, c'est leur dire attention, il faut anticiper en gérant votre stress, en se protégeant, en vous écoutant. Anticiper, c'est leur donner la bonne information, quels sont les symptômes de ce cœur brisé, dans quel cas je dois appeler le 15. Et puis agir, c'est quand j'ai ces fameux symptômes dont on parlera peut-être tout à l'heure, eh bien je n'attends pas.
Les symptômes, j'appelle le 15. On veut bien les symptômes, mais ça ressemble à quoi?
Alors les symptômes, ça mime un infarctus du myocarde. Donc c'est une douleur dans la poitrine très très forte qui va irradier dans le bras, dans la mâchoire. Ça peut être aussi un essoufflement brutal, des palpitations. Parfois c'est une perte de connaissance, c'est relativement rare, mais là, le symptôme le plus fréquent, c'est vraiment une douleur brutale. Et ce qui est important à entendre, c'est la brutalité de l'événement. Il n'y avait rien avant et brutalement, on est essoufflé, on a mal dans la poitrine. Donc si on a cela, on ne se dit pas c'est rien, ça va passer, je prends un doliprane, on appelle le 15, parce que là c'est finalement aux urgences cardiologiques et sur table de coronarographie qu'on va faire le diagnostic en notant des coronaires normales, et donc c'est un diagnostic posteriori.
Très bien, merci beaucoup professeur Mounier-Veillé pour cet éclairage, et pour ceux ou celles qui voudraient plus d'informations, je vous incite à aller jeter un coup d'œil sur le site suivant, www.agirpourlecoeurdesfemmesaupluriel.com. Merci beaucoup professeur.
Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Yeah, la santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Et ce mode de mon accent anglais, je précise.
Non, mais là, c'est pas l'accent anglais que vous avez fait.
C'était bien. Voilà, c'est ça. Allez, la santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Ils sont pas gentils, mais les deux, maintenant, c'est pas possible. Oui. Bah, écoutez, j'ai pas choisi de parler anglais tous les jours, donc ça tombe bien. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, très taquin, évidemment. Et puis Catherine Blanc, qui est taquine aussi. Elle est sexologue et psychanalyste à Paris. Elle se moque de moi pour démarrer
cette chronique. Non, parce qu'elle est plus nulle que vous encore.
Je préfère le disque.
Non, surtout pas.
Catherine, on va tenter de répondre à la question de Rachid. Rachid nous dit, Catherine, pourriez-vous nous dire une bonne fois pour toutes, c'est quoi les préliminaires? Car je ne sais jamais. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a avant la pénétration? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce sujet-là, Catherine. On va reprendre du coup les bases pour Rachid. Est-ce que c'est tout simplement, comme il le demande, ce qu'il y a avant une pénétration? Donc je ne sais pas, les baisers, les caresses, les fellations, tout ça.
En tout cas, il demande une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Si jamais d'autres n'ont pas encore compris,
c'est
sachez
fini.
Que c'est la dernière fois.
On n'en parlera plus jamais. Alors dites-nous, c'est quoi?
Bon, alors d'abord, c'est pas avant la pénétration. On parle des préliminaires à la sexualité, pas à la pénétration. Encore qu'il puisse y avoir les préliminaires à la pénétration. Du coup, ce sera tout ce qui permet la qualité d'une pénétration. Mais là,
on dirait qu'il parle de l'apothéose, quoi. Genre la pénétration et tout ce qu'il y a avant, quoi. C'est ça. Comme si c'était vraiment important la pénétration.
Voilà, comme si c'était ça la sexualité pour lui. Ça oblige, quand on parle de préliminaires, ça oblige à définir préliminaire à quoi et qu'est-ce que nous entendons par sexualité. Si en effet, je considère que la sexualité pour moi, parce que je suis Rachid, qui considère que ma sexualité, c'est de pénétrer le corps de l'autre, le corps d'une femme, évidemment que ça va être tout ce qui va permettre cette pénétration, la qualité de cette pénétration et la mise en condition de ces deux corps.
Mais sinon, en général... Je me suis souvent demandé aussi, je pensais que les préliminaires, c'était tout ce qu'il y avait avant, le rapport sexuel en lui-même. Quoi.
Mais bon. En fait, le rapport sexuel, à partir du moment...
C'est déjà un rapport sexuel.
Voilà, à partir du moment où vous touchez le sexe de l'autre, à partir du moment où vous regardez ou vous léchez ou têtez le sexe de l'autre, vous comprenez bien qu'on est déjà dans la sexualité. On n'est pas chez le boucher en train d'acheter son steak. Donc vraiment, ne mélangeons pas tout nous, ne nions pas tout ce qui se passe en amont de la pénétration, puisque tout ça est déjà très impliquant, tout ça est déjà très érotisé, et c'est censé l'être. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met avant pour que ce puisse être érotique. Alors, un de mes amis hier, parce que c'était la Saint-Valentin, a trouvé que ce qui était érotique, c'était d'acheter une maison à sa femme. Bon, mais pourquoi pas si ça excite son épouse. Mais je pense qu'on n'est pas obligé non plus d'aller jusque-là.
Là,
mais celui-là est extraordinaire.
Ah, il est pas mal,
c'est sympa, cet ami.
L'érotisme au travers d'une maison achetée, ça coûte un peu cher, l'érotisme. Ben, voilà. Il y a des choses un peu plus...
Félicite David, il est formidable.
Mais du coup, si on veut donner une définition, parce que j'aime bien le côté pratique, pragmatique, est-ce que, je ne sais pas, un bisou, c'est un début de préliminaire ? Est-ce
bien
que
sûr.
Tenir la main, c'est des préliminaires ? Est-ce que
oui, mettre la main sur l'épaule ? Tenir la main dans la rue, ce n'est pas érotique, déjà ?
Ah bah tout dépend. Vous pouvez tirer votre mari comme vous l'amenez à l'école. Comme vous l'amenez
bonjour,
à l'école.
C'est pas un préliminaire, quoi. Alors qu'un bisou... dans d'autres circonstances.
Ah bah, tout dépend de l'intention. C'est-à-dire que si effectivement vous avez le sentiment que donner la main à votre mari, c'est le traîner au bagne, mais sinon avoir la main d'un homme, l'homme que vous aimez dans votre main et prendre la mesure de cette main qui tient la vôtre, c'est extrêmement sensuel. Et ça, si c'est pour vous amener ou si c'est pour l'amener dans un hôtel, vous pensez bien qu'on est déjà dans l'érotisme.
Et non, le bisou, si vous m'amenez à Bricorama,
et le bisou d'en parler, et le bisou d'en parler, Jimmy, qu'il soit tout effleurant ou qu'il soit pénétrant, on est déjà dans la sexualité, on est déjà en train de fabriquer la pénétration des corps, les fluides échangés, on est déjà dans de la sexualité, donc on se prépare effectivement à glisser tranquillement vers une érotisation, vers le fait de se dénuder, vers le fait de se... Donc les préliminaires, c'est vraiment tout ça, c'est comment on se parle, comment on se regarde, comment on s'envisage, plus ou moins érotiquement, jusque carrément érotiquement, bien sûr.
Est-ce que échanger dans ces cas-là des sextos, ça fait partie des préliminaires d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Après, on peut considérer parfois qu'on est déjà dans la fabrication de notre sexualité, mais oui, ce sont des préliminaires, puisqu'on est en train de s'exciter, on est peut-être chacun d'un bout de la planète, l'un dressé comme un mât formidable, parce que tout d'un coup en érection, par ces échanges-là, et l'autre tout excité et tout lubrifié, même
en fait,
s'il n'y aura
pas... C'est
tout,
les préliminaires, j'ai l'impression.
Absolument.
Tout ce que vous avez tout cité, là, donc finalement,
oui, c'est, ça.
C'est tout et rien.
Mais du coup, le mot est peut-être pas bon.
Ouais, pourquoi on a utilisé ce mot, en fait?
Ben, c'est ce qui est avant ce que l'on décide. Donc, encore une fois, ne donnons pas le terme préliminaire pour parler comme classiquement de la fellation et du cunnilingus, qui du coup obligerait pratiquement à la fellation.
Ça comprend beaucoup plus de choses, en fait.
Ça comprend beaucoup de choses. Et demandons-nous, préliminaire à quoi? Si c'est préliminaire à un échange, si c'est préliminaire à une pénétration, si c'est préliminaire à des caresses, eh bien on remonte encore un peu plus en amont encore l'échange et l'écriture de la relation. Et c'est une écriture, le préliminaire est une écriture de relation pour aboutir une relation, et définissons aboutir quoi.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.
J'espère ne pas avoir perdu Rachid.
Non, mais on pourra en reparler encore, je pense qu'on n'a pas terminé sur les préliminaires. Oui. Ce ne sera pas une fois pour toutes, hein. On y reviendra. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, je vous laisse avec Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous êtes abonné évidemment au magazine Jeune et Jolie, ça vous ressemble tellement.
J'étais peut-être, oui.
Vous l'êtes.
Jeune, moi maintenant.
On vous présente avec Stéphane cet après-midi, Jeune et Génie.
Ah. Ils sont des jeunes, j'ai déjà géniaux. Alors Voltaire, il s'appelait encore François-Marie Arouet, grâce au film qu'on peut voir actuellement sur nos écrans. Alan Turing, le mathématicien, bon, qui a mal fini, hein, le pauvre.
Bah
hein,
oui,
il a avalé la pomme.
Oui, bah oui, mais on l'a castré chimiquement. Ouais. Moche quand même, Stéphane. Hein.
Et vous avez choisi qui ?
Greta Thunberg.
Ah oui,
jeune et génie. Elle vient d'avoir seulement 18 ans.
Ah oui.
Vous imaginez ?
Comme vous, quoi.
Oui, à 3 ans près.
C'est
effectivement,
ça.
Elle
c'est
est
bien
plus connue que vous, je crois.
Mais alors oui, et j'ai vu sur Instagram, elle a plus de followers que moi, ce qui m'a personnellement choqué, mais c'est le cas. Ouais.
Vous n'en avez pas beaucoup, faut dire. C'était pas difficile.
C'est vrai, c'était pas difficile.
Très bien, mais écoutez, on va rester bien sûr avec vous. Vous écoutez tous les après-midi, comme tous les jours, évidemment. Et vous restez évidemment sur Europe 1.